calmez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer. Avec un geste d'apaisement, vous savez, la main magnanime et le petit sourire en coin, cette hauteur de vue dont vous êtes complètement exclu, hein, on vous renvoie à vos émotions, à vos excès, à l'incapacité que vous avez de vous maîtriser. En un geste, un seul, votre propos est complètement disqualifié. Dans cette expression, on a vu, à juste titre, une dimension sexiste, mais c'est bien plus que ça en réalité. C'est une rhétorique que l'on applique depuis toujours à celles et ceux que l'on domine, pour les discréditer, pour les recadrer, pour les mettre au pas, mais surtout pour préserver la domination que l'on exerce sur eux, une domination dans l'espace public par notre genre, notre origine, notre classe sociale, notre sexualité, notre religion, qui font que, pour plein de raisons, c'est plus facile d'exister. Calmez-vous. Calmez-vous, ça va bien se passer. C'est une façon, en fait, de vous dépolitiser. Vous, toutes les minorités, vous n'aurez pas accès à ce à quoi j'ai accès, moi. Un discours collectif, objectif, politique. Vous n'êtes que cette petite personne perdue dans la masse qui n'a pour elle que sa colère personnelle, son excessivité individuelle, sa violence subjective. Vous êtes l'instable ou l'hystérique, la folle, la folasse, le sauvage, le sale, le cas social. Et mon discours paternaliste, sous couvert d'appeler au calme, il n'est là que pour vous empêcher d'exister collectivement, c'est-à-dire d'exister vraiment. Calmez-vous, ça va bien se passer.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, a-t-on souvent reproché à mon invité d'aujourd'hui son manque de calme. On lui doit l'un des succès de librairie de ces derniers mois, Les Grandes Oubliées, une analyse très stimulante, pédagogique, très documentée sur la manière dont les femmes ont été, pour ainsi dire, effacées du grand récit qui jusqu'à présent nous a été fait de l'histoire. Un livre placé sous le matronage bienveillant de l'historienne Michel Perrault, ce qui n'est pas rien. Bonjour Titiou Lecoq.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Combien de fois est-ce qu'on vous a demandé de vous calmer, vous ?
Alors, en ce moment, on me dit plutôt l'inverse. J'ai beaucoup de femmes me félicitent et me disent « c'est incroyable que tu restes calme face à toutes les provocations ». Et donc voilà, donc je suis dans la démarche inverse. Je dis oui, voilà, je représente le calme, la femme calme.
Mais cette phrase, cette petite rengaine qui n'est jamais adressée à n'importe qui, qu'est-ce qu'elle traduit ? Qu'est-ce qu'elle révèle pour vous ?
C'est, alors, pour avoir travaillé sur l'histoire, ça réactive tellement de clichés, c'est absolument extraordinaire de, voilà, et dont évidemment, il n'a absolument pas conscience quand il le dit, je pense, tout ce qu'il y a derrière. Et notamment, évidemment, l'idée d'hystérie et de lui, il est surplombant en tant qu'homme, il est dans la rationalité, et la femme en face est ramenée à ses émotions. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps sur les rapports de domination, c'est, l'homme, il est toujours plus que son corps et donc il est toujours capable de contrôler son corps et ses émotions. Ça, la femme, elle est limitée à son corps.
Alors ça vaut d'ailleurs pour toutes les minorités, je le disais, mais cette idée que les femmes peinent à se maîtriser, à se contrôler, Titiou Lecoq, d'où ça vient au fond ? Comment ça s'est formé historiquement ?
Alors, comment ça s'est formé ? On en retrouve des traces, en fait, quand on remonte, j'étais étonnée, moi, déjà dans la Grèce antique, parce que j'avais le souvenir de mes... quand j'ai fait du grec ancien au lycée, et on faisait la démocratie athénienne, et on nous disait, bah, c'est formidable, c'est vraiment, c'est génial, regardez le progrès et tout, et on disait, bah ouais, enfin, quand même, les femmes, quoi. Et c'était vraiment anecdotique, on disait, bah oui, bon, ils les ont oubliées, voilà, c'est comme ça, mais c'est pas très grave. Et puis, c'était juste un oubli qui va se corriger, et en fait, quand on lit les textes, ils les ont pas oubliés. Genre, ils ont décidé qu'il fallait exclure les femmes délibérément, parce que les femmes ne sont pas capables de contrôler leur corps, c'est ce que je disais tout à l'heure, et notamment, il y a plusieurs anthropologues qui disent que doit y avoir un lien avec le sang menstruel, et l'idée que la femme ne contrôle pas ce qui sort de son corps, et que donc on ne peut pas attendre d'elle un raisonnement vraiment intellectuel et sain, et voilà, et que l'homme est supérieur parce qu'il est plus que son corps. C'est toujours cette idée qui revient.
Vous avez prononcé un mot-clé qui est celui de progrès, et c'est passionnant parce que ce que vous interrogez au fond dans votre livre, c'est la notion de progrès, à savoir l'idée que pour les femmes, la marche vers l'égalité serait continue, linéaire, pérenne. En quoi on se trompe ?
Alors, ça c'est fondamental. Je pense que c'est même ce qui m'a le plus marqué, moi, en faisant les recherches pour le livre, ça a été de me rendre compte... Au fond, c'est l'idée, et c'est le constat, que rien n'est écrit à l'avance. Qu'il n'y a pas de destin biologique, par exemple, que la domination masculine n'est pas une destinée biologique. Que ça, on peut faire autrement, ça peut être autrement. Et du moment où c'est pas écrit dans le marbre, ça veut dire qu'on peut gagner en droit, mais ça veut dire aussi qu'on peut perdre en droit. Et que donc, on a cette idée que la nature, ça serait un état de sauvagerie et d'inégalité naturelle, ce qui est complètement faux, et qu'on tendrait avec la civilisation à aller vers le progrès, vers l'égalité. Et ben, notre histoire prouve que non. Et qu'il y a eu des moments où les femmes, en tant que classe sociale, ont gagné en droit, et puis il y a eu des moments où elles ont perdu aussi.
Et pour remonter plus loin, c'est fascinant. Vous nous dites que l'inégalité homme-femme qui fonde notre ordre social n'a pas toujours été d'actualité. Comment est-ce qu'on le sait ? C'est ça.
Alors, ça, il y a une bascule, et ça, pareil, c'est quelque chose dont on parle assez peu, mais il y a une bascule intellectuelle qui se fait. Pour nous, il y a cette espèce d'évidence biologique que, en gros, tous les êtres vivants sont séparés entre mâle et femelle. Masculin, féminin, mâle, femelle, c'est ce qu'on appelle le binarisme sexuel. Ça nous paraît une évidence. On regarde autour de nous, la nature, les animaux, c'est comme ça. Et ben, pendant très longtemps, les humains, on n'a pas du tout perçu les choses comme ça. Le binarisme sexuel, on le pensait pas. On pensait par exemple que les humains, il y avait un moule qui faisait, le même moule faisait du masculin ou du féminin. Quand le moule, quand c'était réussi, ça donnait un homme, et qu'une femme, ça n'était qu'un homme raté, qu'une version un peu dégradée d'un corps masculin.
Passionnant. Passionnant, mais pourquoi est-ce qu'on s'est trompé, en fait, Titu Lecoq, sur cette conception de l'évolution linéaire et du progrès continu de la condition féminine? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on se trompe encore? Pourquoi est-ce qu'on persiste dans cette erreur, alors qu'on a tous les éléments pour ne pas continuer?
Alors, c'est le constat un peu triste de, je suis pas la première à écrire ce livre. Il a déjà été fait. Il a été fait dans les années 80, dans les années 90. Je me dis, il sera refait dans 15 ans par quelqu'un d'autre qui dira, vous savez pas quoi, c'est incroyable, l'histoire des femmes. Alors, je pense que, pour moi, la clé, c'est l'éducation nationale. Je pense que c'est vraiment du moment où cette histoire-là n'est pas enseignée à l'école, on n'arrive pas à l'inscrire dans le long terme et dans les esprits de tout le monde. C'est-à-dire que, là, on est sur des initiatives individuelles. Les gens qui sont intéressés vont lire mon livre, d'autres livres d'historiennes, très bien, vont apprendre à leurs enfants cette histoire-là. Mais tant que c'est de l'individuel, on ne passe pas à quelque chose où on change vraiment notre appréhension de cette histoire.
On pourrait raconter, par exemple, l'amalgame qui est souvent fait entre progrès technique et progrès social, intellectuel, humaniste. En quoi, par exemple, une invention comme l'imprimerie a-t-elle eu des conséquences pas forcément bénéfiques pour les femmes? C'est un moment assez passionnant.
Oui, alors dans le livre, à chaque fois, je pars de ce que moi j'ai appris quand j'étais à l'école et de où en sont en fait les recherches historiques maintenant. Parce que l'histoire, ça en fait, c'est une matière vivante et on continue de découvrir des tonnes de choses. Et donc moi, j'avais vraiment ce souvenir sur l'invention de l'imprimerie, de l'écrire dans mon classeur, de le souligner, que c'était forcément quelque chose de positif et de bénéfique pour l'humanité.
Il y a de progrès.
Oui, les gens allaient lire des livres. Donc évidemment, c'était formidable. Et donc, ils allaient devenir plus intelligents, plus tolérants. Enfin voilà, c'était la propagation des bonnes idées. Et en réalité, quand on regarde les livres qui se vendaient à l'époque, les best-sellers de l'époque, il y a quand même un paquet de livres qui expliquent ces moments des chasses aux sorcières, comment torturer des femmes, et qui sont d'une misogynie, mais vraiment d'une violence, c'est insoutenable à lire. Et donc c'est ça qui cartonne. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, c'est l'outil technique, c'est comme avec Internet, ça dépend de ce qu'on en fait.
Et c'est
après
la question que j'allais vous poser, direz-vous qu'il y en est de même avec les réseaux sociaux et Internet, vous qui avez été très active sur Internet au départ, Titu?
Oui, il y a toujours la question, les usages qu'on en fait, et les usages qu'on en fait sont déterminés par des intérêts économiques derrière. Donc, ça pose une question de modèle économique derrière.
Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, quand on est une femme, d'étudier un domaine, l'histoire, dont les femmes sont pour ainsi dire absentes? Ce qui n'est pas une opinion, je le rappelle, mais un fait quantitatif.
Alors, moi, je ne suis pas historienne, donc je suis vraiment partie des travaux de celles qui produisent depuis des années sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a une espèce d'injustice, parce que quand une femme historienne travaille sur l'histoire des femmes, on considère qu'elle fait du militantisme et qu'elle n'est pas objective. Alors que quand un homme fait de l'histoire des hommes, lui, parfaitement objectif. Donc, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, parce que les femmes sont, de toute façon, les femmes sont toujours soupçonnées, mais donc soupçonnées de ne pas être objectives en tant qu'historienne, je trouve ça assez terrible, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve.
Est-ce que vous avez l'impression que les institutions sont prêtes à corriger les manques, les inexactitudes, les erreurs, justement?
Alors, pas du tout. On parlait l'institution scolaire, par exemple. Il y a une énorme résistance qui est liée au fait que, quelque part, ils se disent, l'histoire des femmes, c'est politique, donc c'est pas objectif, c'est une histoire militante, et l'école n'a pas à faire de la politique et du militantisme.
Oui, c'est ça.
Et sans se rendre compte, ce qui est vraiment quand même la base, on est en degré de maternelle de sociologie politique, de se dire, mais exclure les femmes de l'histoire, c'est une décision politique. C'est pas parce que c'est pas ces gens-là qui l'ont prise que ça n'est pas politique. Et donc l'histoire qu'on apprend, est évidemment, c'est fait de choix politiques. Mais il y a cette idée qui revient dans mettant tous ces discours-là, qui est le fait majoritaire passe pour neutre. En fait, ce qui est l'opinion majoritaire passe pour une forme d'objectivité et de neutralité, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai vu ça quand j'ai travaillé sur les féminicides.
C'est une validation de l'hégémonie, c'est une validation de la norme, c'est une validation du pouvoir et de la domination, en réalité.
Voilà, sur les féminicides, par exemple, c'était très simple, c'était juste une question de vocabulaire. Tout le monde disait drame passionnel, et ça avait l'air neutre. Mais en fait, drame passionnel, ça n'est pas du tout neutre comme expression. Ça porte des tonnes de choses derrière sur le rapport à l'amour, les rapports femmes-hommes, etc. Et dire homicide conjugal, c'est beaucoup plus neutre. Mais en vérité, on employait assez peu ce terme-là.
Encore faut-il l'expliquer. Celle qui n'explique rien dans cette émission, évidemment, vous la connaissez, Titius et la culture, et son actualité motus et bouche cousue. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 16 février ? Faites-vous plaisir. Après 9 semaines de fermeture, les discothèques vont enfin pouvoir ouvrir leur dance floor dès ce soir dans toute la France, dans le respect du protocole sanitaire, évidemment. Dans le même temps, il sera à nouveau possible de consommer debout dans les bars, d'assister à des concerts debout et même de manger et boire au cinéma. Bon plan pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour toute cette liberté retrouvée. Laurent Garnier vient de refondre son site et propose des heures d'archives, de live, de DJ set rares pour ambiancer vos soirées au lait.
Le prix Daniel Tosco du Plantier est attribué à Édouard Veil.
César, avant César, les prix Daniel Toscan du Plantier qui récompensent les meilleurs producteurs de cinéma de l'année ont été révélés hier. Résultat, Édouard Veil et Alice Girard de la société Rectangle ont été couverts d'or en 2021. Ils ont notamment produit Aline de Valérie Lemercier, l'événement d'Audrey Diwan, déjà lauréat du Lion d'Or à Venise en septembre. Et puis en mars prochain, ils proposeront notamment le bouleversant Vortex de Gaspard Noé.
Venez visiter mon exposition au 6e étage du Centre Pompidou.
Ray en majesté, figure majeure de l'art contemporain, le sculpteur américain Charles Ray se retrouve dès aujourd'hui à l'honneur de 2 expositions parisiennes d'envergure à la Bourse du Commerce. Ce maître du trouble et du tentaculaire propose une carte blanche et 6 œuvres inédites, tandis qu'au Centre Pompidou, c'est près de 50 ans de création que propose de retracer un parcours d'une 20aine de propositions pour explorer les liens entre la forme, le corps, l'esprit. On dit oui.
On me demande de me séparer de 58 personnes, et là, tu m'en donnes 30.
Et enfin, ciné sans restriction, tous à fond. Aujourd'hui dans les salles, on croit qu'un autre monde est possible grâce à Stéphane Brisé. Après La Loi du marché et En guerre, le cinéaste français convoque à nouveau Vincent Lindon, associé à Sandrine Kiberlin, pour boucler sa trilogie du travail. Il met en scène un cadre d'usine sommé de régler un violent plan social qui se retrouve tiraillé entre la loyauté envers ses employés et la réalité du marché. C'est un film réquisitoire contre les dérives du capitalisme et ses répercussions intimes. Titus Lecoq, invité de Boomerang ce matin, pour revenir sur la manière dont les femmes ont été effacées de l'histoire. Je le rappelle, ça n'est pas une opinion, hein. C'est important de le noter. Ça s'explique par des événements historiques que vous racontez, à commencer par la façon dont les femmes ont été peu à peu exclues du pouvoir politique. En quoi c'est cette exclusion, en fait, c'est un sujet en soi, déjà.
C'est un sujet dans la mesure où, alors, il y a des choses qu'on apprend mais très vite à l'école. Moi, la loi Salique.
Qu'est-ce que c'est la loi Salique ?
Bah oui, la loi Salique, ça rappelle les vieux. Vous prendrez votre cahier grand carreau et votre stylo à plume. Et donc la loi Salique, c'est la loi en France qui dit que les femmes dans la royauté ne peuvent pas accéder au trône. Et Eliane Viennot a travaillé sur le sujet. Et en fait, à l'époque, on a sorti des faux textes. Ils ont produit des faux. Alors c'est une espèce de série complètement folle qu'il faudrait raconter plus longuement, mais on aurait dû avoir concrètement en France une reine qui se sera appelée Jeanne de France, et on devrait tous connaître Jeanne de France. Et son oncle a réussi à récupérer le pouvoir en produisant un faux texte de soi-disant des Francs qu'on a appelé la loi Salique.
Et diriez-vous que cette loi a laissé des traces sur la conception qu'on se fait encore du pouvoir en France, Titus Lecoq ?
Oui, et c'est très important parce que c'est un moment pendant longtemps quand même ce qui s'est passé, et notamment au Moyen-Âge, il y avait l'idée que la classe sociale l'emportait sur le sexe. C'est-à-dire que le Moyen-Âge était évidemment une société patriarcale, mais quand même il y avait une espèce de souplesse et de fluidité dans les rapports entre femmes et hommes, parce que ce qui était important, c'était par exemple d'être de la noblesse ou d'être de la famille royale. Et à un moment, on commence à se dire, non, en fait, et c'est l'idée de binarisme sexuel, en fait, toute la noblesse ne se vaut pas, les hommes sont bien supérieurs, et pour gouverner, il vaudra mieux prendre un homme d'un cran royal inférieur, mais qui soit un homme.
Alors c'est passionnant, parce qu'en ce moment, vous le savez, avec les campagnes présidentielles, les femmes ne sont pas absentes. Pour la première fois, 3 femmes sont notamment candidates pour les grands partis. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Titus Lecoq ?
C'est compliqué en tant que féministe, cette campagne électorale. Qu'est-ce que ça m'inspire ?
Elles sont aux portes du pouvoir, littéralement.
Oui, mais elles ne portent pas la plupart une parole féministe. Enfin, un vrai engagement féministe.
Peut-être avant toute chose, est-ce qu'elles ont une chance d'être élues, indépendamment de leurs opinions politiques, ou est-ce que la résistance au pouvoir des femmes est telle que c'est impossible ? C'est un argument qu'on avance parfois. La France n'est pas prête à avoir une femme présidente.
Je pense qu'il existe une vraie résistance. Après, moi, j'ai le souvenir du déferlement de misogynie à l'époque contre Ségolène Royal. Et vraiment, mais en fait, si on prenait les archives de l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on serait atterré par ce qui a été écrit sur elle à ce moment-là. Donc ça s'est quand même amélioré. Là-dessus, on fait un peu plus attention. Mais il y a cette idée, enfin, on attend un homme pour nous sauver.
Enfin, les remarques contre les prises de parole de Valérie Pécresse, par exemple, sont des remarques misogynes.
Sont des remarques misogynes et
c'est-à-dire qu'on la soupçonne immédiatement d'incompétence, quoi.
Ah, de toute façon, toutes les femmes politiques, jamais on dira d'une femme politique que elle est extraordinairement intelligente ou cultivée ou vraiment brillante. Ce qu'on dira d'un homme politique, même si c'est un adversaire.
Au fond, si tu le coques, même si une femme était élue, à votre avis, est-ce que ça changerait quelque chose en termes d'avancée dans le combat féministe?
Je pense que si ça changerait quelque chose sur le rapport inconscient qu'on a collectivement au pouvoir et l'image qu'on a du pouvoir. Donc là, il y a quelque chose qui va se jouer à un moment. Et pour l'instant, le pouvoir en France, on l'associe au masculin.
Mais ce que vous dites quand même, c'est que ce combat, il ne se joue pas seulement au niveau des postes de pouvoir, mais aussi et surtout, pour reprendre une partie du titre de l'un de vos précédents livres, devant le panier à linge sale.
Oui. Oui, mais c'est ce qui est intéressant sur la lutte politique, et c'est là-dessus que je suis en train de travailler en ce moment, c'est de voir à quel moment on arrive à articuler, mener un combat pour l'égalité au sein de son couple et de sa famille et dans sa vie quotidienne, de manière très concrète, et puis essayer de le porter aussi à un niveau collectif. Alors évidemment, c'est pas les mêmes moyens qu'on applique à une grande échelle, à une petite échelle, mais il faut mener les deux. Et je suis assez convaincue, alors je pense qu'il y a un truc très générationnel, voilà, où on m'a appris aussi que pour sauver la planète, il fallait que je coupe l'eau quand je me lave les dents. Mais du coup, ce truc des petits gestes, j'ai quand même en tête. Je me dis, le combat politique, faut qu'on arrive à l'articuler au niveau du privé et au niveau du collectif.
Si les femmes faisaient la révolution sur ce plan-là, sur le plan du travail ménager, si elles le refusaient, si elles obligeaient les hommes à le faire avec elles, enfin si ce travail n'était plus ce travail non salarié, un travail non payé, clandestin auquel elles sont, je dirais, condamnées, parce que je trouve que mener cette vie à longueur d'années et de vie sans rien de productif, c'est vraiment une condamnation. Eh bien, si ceci était changé, toute la société en serait bouleversée.
Simone de Beauvoir en 1975, au micro de Jean-Jacques Servan-Schreiber, Titu Lecoq, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, toute l'interview est géniale. Non, mais vraiment, allez la regarder sur Internet. C'est en une heure, mais c'est d'une modernité. C'est même effrayant à quel point ça reste d'actualité. Et donc, quand je travaillais pour mon livre Libéré, j'étais tombée dessus et je me suis dit, ah oui, mais en fait, elle dit ça en 75 avant ma naissance et je suis, moi, en train d'assumer tout ce qui est tâches domestiques chez moi. Mais ce combat-là, on sait qu'il avance pas pour l'instant. Les statistiques le montrent, en vrai, la répartition, elle est toujours la même. Donc ça bouge pas et derrière, on peut se dire, c'est pas très important, mais l'idée qu'il y a derrière, et c'est là où ça rejoint aussi les grandes oubliées, c'est que les femmes sont liées à l'espace domestique et intérieur, donc ça implique que les hommes, leur espace, c'est l'extérieur.
On en reparlera.
Et c'est le monde public.
Évidemment, vous dites que c'est grâce à Simone de Beauvoir que vous avez eu le sentiment de comprendre ce qu'on appelle littérature. Dans quelle mesure les femmes ont-elles aussi été effacées en littérature, Titiou ?
Il y a, en 2014, la Pléiade fait un communiqué de presse pour se justifier sur le fait qu'il n'y avait pas de femmes quasiment dans la Pléiade et dit, c'est pas de notre faute, quand même, c'est est-ce que l'histoire littéraire française s'est conjuguée au masculin jusqu'à la moitié du XXe siècle? Et je comprends qu'ils aient écrit ça, mais c'est faux. Et il y a des chercheuses, par exemple Aurore Evin, qui a travaillé sur les femmes dramaturges au XVIIe siècle. Personne ne connaît Catherine Bernard, mais c'est absolument extraordinaire, il faut la lire. En fait, elles ont écrit, elles ont publié, et ce qui est encore plus surprenant, moi quand j'ai fait ces recherches, c'est que ces femmes artistes ont eu du succès de leur vivant. Et l'oubli, il arrive après en réalité.
Oui, l'oubli, il est inscrit dans l'histoire, en fait, dans le récit qu'on nous propose.
Il est dans la rétrospective, ouais, dans quand on va faire typiquement une histoire littéraire dès la guerre des Michards, et qui on va sélectionner, là on ne prendra pas les femmes.
Passionnant, cet effacement, il se traduit aussi sur le plan linguistique, puisqu'on assiste au XVIIe siècle à une masculinisation du français qui entraîne notamment la disparition d'un terme. Et ce terme, c'est le terme d'autrice. Comment ça s'explique, ça?
C'est une vraie volonté politique, on veut aussi faire disparaître les autrices en faisant disparaître le mot, évidemment.
Le mot dont on nous explique aujourd'hui, dont certains nous expliquent aujourd'hui, oh, il est moche, ce mot il est inventé de toutes pièces, pas du tout en réalité.
Oui, alors après, moi j'ai été dans une position compliquée parce que quand j'étais petite, je voulais pas être autrice. Moi je voulais être auteur.
Avec un E.
Non, je crois même pas. Au début, je voulais juste être auteur. Après, je dis, ah bah non, je vais être auteureux. Et ensuite, j'ai découvert le terme autrice.
Mais alors, se revendiquer autrice plutôt qu'auteureux, quel geste politique est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Pour moi, c'est une manière justement de rappeler que la Pléiade avait tort, que les femmes ont écrit bien avant. Et par exemple, Catherine Bernard, c'est la première femme dramaturge dont les pièces ont été jouées à la Comédie Française. Et dans les registres de l'époque de la Comédie Française, elle est notée en tant qu'autrice. Et à l'époque, on parle des autrices. Comme on va parler des actrices après. Et le mot ne choque absolument pas. Et je tiens à rassurer les gens dont ça fait encore saigner les oreilles, on s'y habitue très très vite.
Il suffit de le prononcer.
Moi maintenant, c'est auteureux qui me, vraiment, ça m'écorche les oreilles.
Il suffit de le prononcer, autrice, 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 si tu veux.
Voilà.
On va reparler d'autrice ensemble, de féminin, de combat, juste après, ce qui ressemble beaucoup à un hymne. Beyoncé, Run the World, en 2011. Vous êtes sur France Inter avec Titiou Lecoq, vous écoutez Boomerang, évidemment. La suivre, hein, quand même, bras dessous, point levé, pas chassé, l'œil qui ne lâche rien, le sourire charismatique, le cheveu tenace et ce tigre. Sur le bras droit, l'autrice Titiou Lecoq, invitée de Boomerang pour revenir sur un combat, celui de la réhabilitation des femmes dans l'histoire. Quand est-ce que vous avez pris conscience que les hommes et les femmes n'étaient pas traités de la même façon?
En histoire?
Non, pour
en
vous.
En général?
Oui, en général.
Alors, moi, ça a été très étrange. J'ai été élevée dans une famille plutôt matriarcale, il n'y avait que des femmes. Et donc, et ma mère était très féministe, et c'est quand je suis allée vers le monde extérieur que j'étais étonnée de me dire « Ah bon, mais c'est pas partout comme chez moi ». Et donc j'ai été choquée, moi, sur le principe inverse, c'était un peu les lettres persanes, quoi. C'est de me dire « Ah, mais pourquoi quand c'est un homme qui parle, tout le monde l'écoute, et quand c'est moi, on m'écoute pas ?» Et j'étais pas du tout préparée à ça, donc c'est arrivé à l'adolescence, je pense.
Dans cette famille, quelle place avaient les livres ?
Alors, énorme, évidemment. D'ailleurs, énorme, même physiquement. Hein, ça prenait une place, ça prenait tout un mur du salon. Et j'avais cette chance de pouvoir piocher dans la bibliothèque. Et c'est comme ça que j'ai découvert Simone de Beauvoir. C'est un mercredi matin, j'ai séché le cours de gym. Et je suis rentrée chez moi. Et j'ai pris le Mémoire d'une jeune fille rangée. Et voilà. Et j'ai découvert Beauvoir. Et je me dis, quand je raconte cette histoire des lycéens et des lycéennes, en fait, il y aurait eu Internet. Bah, j'aurais été sur Internet et j'aurais jamais pris le livre. Et voilà, donc cette chance d'avoir 14 ans en 94.
Vous savez, quand j'ai lu votre livre, je me posais une question centrale, une question vertigineuse, celle à laquelle il est difficile de répondre et que vous posez, c'est de savoir comment les femmes ont pu adhérer en fait à un ordre social qui les défavorisait à ce point.
Alors, je pense, alors ça reste une hypothèse très personnelle, et je pense qu'elles n'y ont pas tout adhéré, et je pense que du moment où il y a eu une domination masculine, il y a eu des femmes pour s'opposer à cette domination. Et que ce qu'on appelle les combats féministes, en vrai, on peut trouver des traces de ces révoltes partout à travers le siècle.
Mais quand même, cet ordre social, dans quelle mesure est-ce que vous avez eu le sentiment, parfois, et malgré vous, d'y adhérer?
On y adhère parce que il y a quelque chose de très pernicieux, il y en a quand même toute une partie de cet ordre social ne passe pas pour du social mais pour du biologique. Et qu'on va nous dire quand même, les hommes, les femmes, par exemple sur la sexualité, l'idée maintenant est de se dire les hommes ont des pulsions sexuelles. Alors moi qui ai travaillé sur les violences sexuelles, en tant que journaliste, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup. Les hommes ont des pulsions sexuelles, ils peuvent pas les contrôler, c'est comme ça, les spermatozoïdes. Bon, bah, il se trouve qu'au Moyen-Âge, on prêtait pas du tout la pulsion sexuelle aux hommes, on la prêtait aux femmes. On pensait que les femmes ne pouvaient pas se retenir et que voilà, s'il y avait un pénis qui passait, bah, elles se jetaient dessus.
Allons donc.
Et oui. Et donc, ce qui passe pour des évidences biologiques, on se rend compte que c'est du social. Et du moment où on se dit que c'est biologique et c'est scientifique, eh ben, on y adhère forcément. Et on le reproduit.
Ce qui n'empêche pas d'interroger, de combattre quand même.
Bien sûr.
Rendre visibles celles qui, avant vous, ont interrogé et se sont battues, justement, ont porté ces combats. Quel enjeu est-ce que c'est pour vous, Titu Lecoq, aujourd'hui?
Je pense que c'est vraiment important pour les mouvements féministes de réussir à conserver notre mémoire, et c'est pas évident, c'est pas si évident, et que cette mémoire, on la perd pour une raison, on parlait tout à l'heure des outils techniques très très simples, qui est que, par exemple, les livres, bon, alors en ce moment, c'est un moment féministe, donc j'ai l'habitude de dire le féminisme is the new permaculture en édition en ce moment.
Les cupcakes, quoi.
Voilà, tout le monde publie des livres féministes, à un moment, ça va passer, donc on va plus publier, et puis les livres qui ont été publiés, eh ben, ils seront pas réédités. Et c'est ce qui s'est passé pour plein d'autrices féministes des années 70, il y en a plein, en fait, on n'arrive plus à trouver leurs textes, elles sont pas rééditées.
Une sorte de backlash éditorial, en fait.
Et donc, si on disparaît des librairies, et les idées finissent aussi par un peu disparaître et être en retrait. Et je me dis peut-être que cette fois, on va y échapper grâce à Internet. Et moi, je sais qu'à Internet, en tant que féministe, ça a été fondamental parce que j'ai accédé, par exemple, à des textes de féministes américaines et d'afro-féministes qui n'étaient pas traduits en français et pas disponibles. Et j'ai pu les lire grâce à Internet.
C'est un texte de remerciement aux féministes d'hier et d'aujourd'hui que vous nous avez écrit. Et j'aimerais que vous nous le lisiez pour terminer cette émission.
J'ai une dette envers Eugénie Niboyer. C'est grâce à elle que je peux soupirer « Oh, je sais pas pour qui voter !» Parce que si je vote, c'est grâce à elle. C'est aussi grâce à Jeanne de Rouyn, Flora Tristan, Nathalie Lemel, Madeleine Pelletier, avec Hubertine Auclair et Marguerite Durand, et de nombreux autres, étaient prêtes à casser un paquet de carreaux pour que je puisse voter. Pour que les femmes puissent voter. Elles ont consacré leur vie à lutter pour des droits dont elles n'ont jamais profité. Et pourtant, c'est grâce à elles toutes que j'ai une carte d'électrice. Parce qu'elles se sont enchaînées dans des rues, parce qu'elles ont harcelé des députés, parce qu'elles ont créé des journaux, écrit, manifesté, brûlé des codes civils, tenu des barricades, monté des clubs politiques. Parce qu'elles ont consacré leur jour et leur nuit à la lutte. Et si je peux décider d'avoir un enfant ou pas, c'est aussi grâce à des femmes. C'est parce que Simone If, Gisèle Halimi, Yvette Roudy, Thérèse Claire, Monique Wittig, Jacqueline Manicom et tant d'autres anonymes, dont ma mère, se sont battues. Ce sont les femmes qui ont amélioré la vie des femmes. Ce matin, je pense aussi à Christine Delphi, à Michel Perrault évidemment, à Françoise Vergès. Je pense à Ernestine Ronet, à Michel Hufnagel et à toutes celles qui continuent inlassablement le combat pour l'égalité. Il existe une longue chaîne des féministes à travers le temps. À chaque fois que nous l'oublions, nous nous perdons nous-mêmes. Et n'oublions pas non plus leur joie. Sur les images, elles chantent, elles rient, elles pleurent aussi bien sûr. Elles inventent des slogans, elles dessinent, elles se tiennent la main, elles s'enlacent, elles s'embrassent, elles crient. Images en noir et blanc ou en couleur, des années 70 ou de 2022, je vois des femmes de tous les âges qui se mobilisent pour rendre le monde un peu meilleur. N'écoutez pas les esprits chagrins qui vous disent qu'elles vont trop loin. Ces femmes sauvent le monde.
Merci, Titu Lecoq, merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre livre « Les grandes oubliées » ou « Pourquoi l'histoire a effacé les femmes » est publié aux éditions L'Iconoclaste. C'est tout à fait réjouissant, ce qui est un pied de nez d'ailleurs au fait qu'on dit toujours que les féministes ne sont pas drôles. Et c'est tout à fait éclairant aussi. Tout de suite, les médias, Sonia Davila et son Instant M, juste après ça.
Enfin ça allait, confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. J'en attends trop, je suis déçue. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger un enfer, j'ai plus mon nom. Si la magie opère, tout est tombé. Comment faire pour tuer mes démons? Tu es mes démons.
Angèle, pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis pas la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, pour rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me plaire dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'prie un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game, je maîtrise les quatre éléments. J'rappe, je chante, j'produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons.